Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast, bien évidemment. Dernier épisode de l'année, on va chiller un peu, voilà, on est tranquille. On passe de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas pour moi c'est le cas, j'espère que c'est la même chose pour vous. J'ai passé un super Noël et je pense que j'ai passé un super réveillon de nouvel an. Toujours bien accompagné, c'est le principal. Aujourd'hui je refais un petit épisode en impro parce que déjà j'ai eu des retours assez positifs sur le fait que je faisais des épisodes en impro. Les gens préfèrent parce que on a vraiment l'impression que c'est moi qui parle, que je parle avec le cœur, voilà, de ce qu'on m'a dit. Donc bah écoutez, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent quand je suis en impro et des gens qui préfèrent quand je suis pas en impro, donc j'alternerai entre les deux et je pense que ce sera souvent des épisodes en impro quand j'aurai pas trop de temps, hein, voilà, comme cette période en fait, où j'ai l'emploi du temps d'un ministre mais pas le salaire qui suit, voilà. Donc voilà, pas trop de temps cette fin d'année, mais c'est aussi parce que je travaille sur le gros épisode de mes top films de l'année, que vous pourrez retrouver donc en janvier. Le montage va demander beaucoup de temps et je vous préviens tout de suite que ce sera un très gros épisode. On va dépasser les 30 minutes, pourquoi pas aller jusqu'à l'heure, sait-on jamais, hein, alors peut-être. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. On a commencé l'année avec un film réalisé par une femme parce qu'on avait parlé des Éblouis de Sarah Succo, et on va terminer l'année par un film donc réalisé par une femme. Voilà, on termine l'année comme on l'a commencé, avec Une femme du monde de Cécile Ducrot.
Elle est pas pour nous cette école, on va pas aller mendier, maman.
Je vais te la payer.
Faut absolument qu'il fasse cette école.
Comment tu peux trouver 9000 balles en 2 mois?
Vous pourriez pas me prêter un peu d'argent?
Non, c'est pas possible.
Je suis désolé.
T'as déjà fait une lettre de motivation?
Bah ouais, bien sûr. Bonjour monsieur, j'aimerais beaucoup vous sucer pour un max de pognon. Salutations, votre épouse, bien cordialement.
Arrête.
Oui, je sais, je vous parle encore d'un film qui est sorti cette année, mais c'est encore un film que vous retrouverez pas dans le top, dans le top 30, parce qu'on se répète encore une fois, trop de bons films tuent les bons films, et donc du coup, bah j'aurais pas eu l'occasion de vous parler de celui-là dans mon top, mais du coup, je vous en parle aujourd'hui parce que je pense qu'il est tout de même nécessaire. Donc ça raconte quoi, Une femme du monde?
C'est le mec qui bouffe le cul d'une...
On suit l'histoire donc de Marie et de son fils, Adrien. Donc Marie, c'est une prostituée, voilà. Elle se prostitue depuis des années, elle vit de ça, et elle a l'air de très bien s'en porter. Je veux dire, c'est pas une vie qui est contrainte, je veux dire, elle a choisi cette vie-là d'être prostituée. Et donc, il me semble que ça se passe à Strasbourg, et donc du coup, elle est avec son fils Adrien. Ils vivent pas ensemble, d'ailleurs, elle a son propre appartement où du coup, bah, elle fait ses affaires, voilà. On va dire ça tout le long de l'épisode, je pense. Et Adrien, lui, vit donc en résidence universitaire, et donc elle se démène un peu chaque jour pour elle subvenir à ses besoins aussi, à ceux de son fils, donc lui payer sa résidence universitaire, qu'il puisse manger, etc. Tout ça, genre subvenir à ses besoins, quoi, c'est ce que je viens de dire. Et concrètement, le film s'ouvre sur le fait que son fils ait un rendez-vous avec une assistante d'orientation parce qu'il s'est fait virer de son établissement, parce qu'il est globalement complètement con, quoi, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la raison pour laquelle il s'est viré. Quand j'ai entendu la raison, je suis en mode bon, très bien. Puis quand tu vois son comportement juste après, bon, ça vole pas très très haut, quoi. On n'est pas sur de la grosse intelligence, quoi. Bref, donc du coup il se fait virer et on essaie de lui trouver une solution de rechange parce que lui il veut faire de la cuisine, voilà. Et du coup sa mère va se démerder pour lui trouver une école qui est plutôt bien réputée, mais il faut payer l'école et elle coûte cher. Et donc le film va raconter comment sa mère va se démener pour pouvoir payer les études à Adrien. Déjà, la réalisatrice ne se lance pas dans l'inconnu parce qu'elle avait déjà réalisé un court-métrage en 2014, il me semble, qui s'appelait La Contre-Allée, avec déjà Laure Calamy en rôle principal, qui jouait déjà donc une prostituée. Et La Contre-Allée, pourquoi je vous en parle? Tout simplement pour ça.
Le César du meilleur film de court-métrage est attribué à La Contre-Allée, réalisé par Cécile Ducrot.
Donc voilà, c'est une histoire qui lui tient à cœur parce qu'elle a obtenu un César pour son court-métrage, donc elle a eu envie de l'adapter en long-métrage, et l'adaptation du court au long s'est vraiment très bien passée. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur plusieurs domaines qui sont abordés dans le film, notamment celui donc de la misère sociale, hein, parce qu'on est avant tout là-dessus. C'est avant d'être un film sur une prostituée, c'est un film qui traite de la misère sociale, de comment on survit dans ce pays alors que financièrement c'est la merde, parce que prostituée ça rapporte plus autant qu'avant, parce que ce que racontait La Contre-Allée en fait, c'était une prostituée donc française qui voit de jeunes prostituées africaines arriver, baisser les prix et donc casser le marché, et donc du coup les prix sont plus faibles, et donc du coup les revenus des prostituées sont plus faibles, et donc du coup c'est vachement plus dur de subvenir à ses besoins. Dans Une femme du monde, on raconte un peu ce qu'a découlé de ça, sachant que c'est pas les mêmes personnages, il me semble, vu que dans La Contre-Allée elle s'appelle Suzanne et là qu'elle s'appelle Marie. Mais voilà, la situation qui est évoquée dans La Contre-Allée, qu'est-ce que c'est devenu plus tard? Et c'est ce qui est évoqué en fait dans Une une femme du monde. J'aime énormément le film. C'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu au cinéma en cette fin d'année. Parce que il y a une grande humanité qui se dégage du film. Voilà. Et notamment, je reprends tout cet aspect de la misère sociale. On a le souhait de parler d'humain, quoi. Et le film est engagé à ce niveau-là, au niveau de la misère sociale, pour dire on traite des humains de la sorte. Il y a un truc qui est pas normal. Il faut agir, en fait. Ce n'est pas normal de laisser des gens dans la panade comme ça et de les laisser comme ça juste pour dire bah en fait c'est vous qui avez choisi ça, vous êtes dans la merde, maintenant vous vous débrouillez en fait. Et le film, je pense, est là pour ça aussi, pour dire ce n'est pas normal, cette situation n'est pas normale. Ce qui évoque bien aussi ça, c'est notamment on voit dans le film donc Laure Calamy donc est une prostituée mais qu'elle a donc ses clients habituels. Ses clients qu'elle voit donc chaque semaine depuis des années, et en fait elle se rend compte au bout d'un moment qu'il y a notamment un client qui la lâche pour aller voir donc les jeunes prostituées africaines et que c'est moins cher, et en fait on se rend compte que elle y était attachée à ce client, parce que du coup il lui raconte des histoires, il lui offre un cadeau, bien qu'il y ait ce rapport client-produit entre guillemets, on peut pas dire que le sexe est un produit, mais entre guillemets le client qui paye pour une prestation, il y a aussi vraiment ce côté psychologique de elle vient en soutien moral, essaye d'être présente pour ses clients, et eux la remercient en allant voir ailleurs parce que ça coûte moins cher. Il y a aussi tout cet aspect là dans ce que je parle de l'humain. Et donc il y a pas évidemment pas que la misère sociale qui est le sujet du film, bien évidemment il y a le sexe, la sexualité de la femme, comment est vue la sexualité de la femme dans la société, bien évidemment le tabou de la prostitution, avec notamment une Laure Calamy qui est donc prostituée et activiste, qui milite, on la voit beaucoup militer pour le droit des prostituées en France, et notamment pour la dépénalisation des clients de prostituées, et aussi sur le fait que donc tout le problème que j'ai évoqué avec la contralée. Donc on a une Laure Calamy qui est activiste, et ça c'est hyper intéressant aussi. Tout ce qui est ce côté défense de mes droits, mon corps c'est mon corps, je pratique ce que je veux, je ne suis pas contrainte de faire mon activité, c'est je fais mon activité par choix. Et Laure Calamy incarne vraiment ça très très bien dans le film. On a vraiment un portrait de femme moderne, forte, fière, qui lâche rien, qui est optimiste, qui en veut, et ça c'est vraiment un des atouts forts du film. C'est vraiment la prestation de Laure Calamy, hein, qui a déjà raflé un César l'année dernière pour Antoinette dans les Cévennes. Moi personnellement, si je regarde sur l'année, elle est pas loin d'en choper un deuxième d'affilée avec Une femme du monde, soyons très clairs. Et oui, on a le portrait de cette femme, donc du coup, et de cette maman qui se donne, qui fait tout ça pour son fils en fait. Et voilà, c'est plutôt très beau. Et on peut parler aussi donc de Nissim Renard, qui joue le rôle d'Adrien, donc le fils de Marie, qui lui est aussi assez touchant, parce que certes j'ai dit qu'il était très très con, ce qui est le cas, hein, soyons clairs, mais il est aussi très très touchant, et je trouve qu'il a une évolution dans le film que je trouve très intéressante, et en fait l'évolution des deux personnages principaux, je trouve, est très intéressante, parce qu'on a en fait un peu une croisée des destins. J'ai l'impression qu'on a un peu deux courbes. Si on faisait un schéma, on a deux courbes, donc on a la courbe de Laure Calamy qui commence tout en haut, et la courbe de Nissim Renard qui commence tout en bas, et en fait j'ai l'impression que sans cesse, genre la courbe de Laure Calamy part vers le bas, genre plus le film avance, plus Laure Calamy en fait tombe dans un truc où elle est emportée, elle le maîtrise plus, elle fait des conneries, et donc du coup elle part vers les tréfonds, là où son fils justement tout le long du film en fait va sans cesse essayer de s'améliorer, et notamment on a ce point de, genre le point de croisement entre les deux courbes, je pense, se situe au moment où son fils trouve sa mère dans une boîte où elle se prostitue. On a une scène d'explication, et je pense que c'est à partir de ce moment là où vraiment ça décolle pour Adrien, et on tombe dans les bas-fonds pour Marie. Et je trouve que ces évolutions de personnages et cette espèce de destin croisé, je trouve ça super intéressant en fait. Ça en dit beaucoup sur le film, et encore une fois ce qu'on voit à la fin du film, hein, où lui finalement trouve une solution, et au final Laure Calamy elle reste sur le trottoir en fait, et continue à mener sa vie comme elle le peut, et à galérer, quoi. Je trouve que le film et la caméra un regard hyper bienveillant sur les personnages. On n'est pas là dans un jugement. Quand je dis que justement le gamin fait de la merde, et que même Laure Calamy, donc Marie, fait de la merde, la caméra n'est pas du tout dans un regard de jugement ou dans un regard de pitié. On est vraiment dans un regard de... encore une fois, ce sont des humains, il y a vraiment une grosse humanité qui se dégage, et on est là pour raconter une histoire, pour raconter des faits, pour faire des portraits de personnes, mais pas pour juger des personnes, en fait. Et je trouve que le film s'y prend merveilleusement bien. Je trouve Laure Calamy bouleversante dans le film, je la trouve forte, je la trouve charismatique, je la trouve... Mais pour moi, c'est vraiment la définition de la femme moderne dans ce film, et même en général. Je la trouve très très forte. Grandissime Renard aussi, et je pense que c'est une des révélations de l'année, mais dont on ne va pas parler malheureusement. Mais je trouve qu'il est vraiment très très intéressant dans le film, et je trouve ça fort dommage qu'on ne parle pas assez de lui. Je voulais aussi revenir sur les musiques dans le film, et moi notamment, j'ai énormément aimé la présence de la musique Vancouver de Véronique Sanson, qui je trouve a beaucoup de sens, parce que c'est vraiment relié à l'histoire, je trouve, de la personnage principale, avec notamment cette phrase dans la chanson qui dit « Les gens de la nuit sont toujours là quand il faut ». Ça fait un peu une référence donc à la prostitution, et je trouve que c'est plutôt bien choisi, et la musique est toujours plutôt bien amenée, avec notamment cette scène de fin, cette espèce de fête au local des prostituées, où elles dansent dessus, c'est plutôt envoûtant, ça transporte, et moi c'est un peu l'effet que le film m'a fait, ça m'a vraiment transporté. Petit commentaire négatif, on retrouve le commentaire de Dan, qui nous dit « Le réalisateur aurait dû appeler ce film plan séquence sur Laure Calamy. On ne voit qu'elle, elle se déchaîne pendant tout le film pour pas grand chose. Tous les autres acteurs passent inaperçus et c'est bien dommage. Le scénario est faible, aucun sentiment ne passe dans ce nanar. » Alors, je tiens à revenir sur le fait qu'ils disent plan séquence sur Laure Calamy. Le film en fait s'articule autour d'elle, donc forcément, on va la voir beaucoup à l'écran. Je veux dire, j'aime bien ce genre de film aussi où t'as un personnage central et tous les autres en fait sont satellites autour d'elle. C'est-à-dire que tout en fait va venir de Laure Calamy et j'aime bien ce genre de film, moi personnellement, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Je comprends que ça puisse déranger, mais maintenant, c'est vraiment le but du film de la mettre au centre, de, je vais pas dire l'iconiser, mais oui, vraiment d'en faire un peu l'image du film. C'est tout tourne autour d'elle. Je trouve ça plutôt intéressant et je trouve ça plutôt bien fait en plus. Et surtout que c'est parce qu'elle est porteuse d'un message, donc on le voit tout d'abord par son activisme vis-à-vis de la prostitution et de son métier, mais aussi de sa vie. Elle est porteuse d'un message, tout ce que j'ai dit auparavant. Par le fait qu'elle soit mère, par le fait qu'elle soit femme, qu'elle soit prostituée, tout ça représente un message et on veut mettre le message au centre et elle est le symbole de ce message, donc c'est pour ça qu'elle est au centre quoi de tous les sujets. Après aussi on a Nissim Renard qui je trouve aussi prend une place importante dans le film, et des fois on a tendance à un peu trop l'oublier, et j'espère vraiment qu'on le reverra très très vite, parce que pour moi c'est une révélation. Et pour moi c'est pas du tout un nanar, parce que pour moi un nanar c'est vraiment une grosse production qui veut faire les choses bien pour que ce soit l'un des plus grands films de tous les temps et qui au final se plante tellement que c'en est risible, et là je pense que le film n'a pas du tout cette prétention, donc je pense pas qu'on puisse parler de nanar. Merci à tous d'avoir écouté ce dernier épisode de l'année. Je travaille énormément sur l'épisode du top qui va être très 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 long, vraiment je le redis, mais j'essaie de vous faire un truc vraiment quali pour que vous puissiez apprécier et écouter ça tout seul ou en famille ou entre amis, sait-on jamais. En tout cas je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @tfcedlmlff sur Instagram et sur Twitter. Je sais, je n'ai toujours pas changé l'arrobase, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et je tenais encore une fois à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, c'est un peu trop tard, mais en tout cas je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2022.
Ce que je demande pour la bonne année, fini les guirlandes, on veut les bonnes années. Ouais, pour la bonne année, pour la bonne année, pour la bonne année, on veut les bonnes années.
On y croit, puis c'est reparti pour une nouvelle année quoi. Salut.